Imani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse, auteur, compositeur, autrefois mannequin. Je dis autrefois, mais vous avez la trentaine, pas davantage. Vous avez été nominée aux dernières Victoires de la musique comme artiste féminine de l'année. Tout le monde ne connaît pas votre nom, quand il en reste encore. Mais cet été, toute l'Europe, pas la France, l'Europe et même les États-Unis ont dansé sur ceci. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy. C'est votre voix, c'est votre morceau, c'était tiré de la bande-annonce du film Sous les jupes des filles d'Audrey Dana, mais c'est pas votre orchestration. En fait, c'est un remix fait par deux Russes, Filatov et Karas, c'est ça le nom ?
Absolument.
200 millions de vues sur YouTube, et cela a été numéro 1 dans 20 pays l'été. Et vous avez eu cette phrase incroyable, vous avez dit presque des excuses et dit « j'ai pourri les vacances de beaucoup de gens ».
Mais je pense, parce que quand il y a un titre qui passe plus de 10-15 fois par jour, partout, je me suis dit il y a dû au moins avoir quelques gens qui disent « encore cette chanson ». Quoi.
Ah, je pensais que c'était parce qu'elle vous plaisait pas. Ou qu'elle vous énervait, que vous aimiez pas l'orchestration.
Ah non, c'est pas ça. C'est que au départ, moi, le remix, si vous voulez, j'avais l'habitude. C'est-à-dire que dans l'est de l'Europe, j'ai l'habitude qu'ils remixent mes titres. Sur le premier album, ils l'ont fait,
ouais.
Et ils l'avaient fait aussi sur un autre titre de Sous les jupes des filles. Donc j'ai pas émis de critique, j'ai juste rigolé parce que je trouvais que l'orchestration changeait quand même le sens de la chanson beaucoup.
Ah oui, parce qu'il faut dire pour les gens qui connaissent pas votre musique, c'est que c'est pas du tout ça.
Non, c'est pas du tout ça.
Ni votre chanson, ni votre style, c'est même pas du R&B, c'est plus soul, blues, presque folk.
Ouais.
C'est roots votre musique,
ouais.
C'est pas du tout de l'eurodisco, boum boum boum.
Exactement, c'est pas du tout de l'eurodisco, boum boum boum. Et donc la chanson à la base, elle est écrite comme ça, elle est très sensuelle, elle est très très douce, elle est censée aider la personne en face à arrêter d'être si timide, c'est le titre. Et d'un coup, l'orchestration, là, on est là, on se dessape, on n'a pas le temps de discuter, c'était un peu ça. Et j'ai fait cette blague sur scène parce que je voyais que les gens chantaient de la chanson, que je me suis dit, bon ben, les gens, ils ont aimé quand même, à la fin, ils n'étaient pas dégoûtés, quoi.
Et puis finalement, le succès a été énorme, et vous dites, il vaut mieux se laisser porter par le courant.
C'était déjà numéro 1 dans plein de radios dans ce coin du monde, et en fait, on n'a pas pu arrêter, on s'est dit, bon, ok. C'est soit on accepte ce qui nous arrive et on voit où ça nous mène, ou soit on va se battre contre des moulins à vent et puis en réalité on va s'épuiser puis on peut se passer pour des ingrats. Donc voilà, et on a fait avec ce que la vie nous offrait, quoi, en gros.
Alors l'album, votre dernier, s'appelle The Wrong Kind of War. Mm-hmm. Comment vous traduisez ça?
The Wrong Kind of War, ça veut dire le mauvais genre de guerre.
Waouh, l'accent. Bim, pour une fille de Martigues, je prends une leçon.
Alors moi, je suis seulement né à Martigues, mais j'ai grandi à Istres. C'est pas la même ville.
Oui. Tiens, pourquoi vous n'avez pas l'accent du Sud ?
Je l'ai jamais eu.
Comment ça se fait ?
Bah, je sais pas. Mes parents, ils sont arrivés, ils n'avaient pas l'accent. Ils sont arrivés, ils avaient une vingtaine d'années en France.
Ils arrivaient des Comores ?
Ils arrivaient des Comores, tout à fait. Ma mère l'a eu un petit peu, mais le temps qu'elle l'ait, on a déménagé. Je suis arrivé en banlieue parisienne, j'avais 9 ans. Donc je suis plus banlieusarde d'une certaine manière.
Je reviens au disque. Il y a une tournée avec quel groupe, quelles orchestrations?
Bah, c'est avec mon groupe habituel.
À combien vous êtes?
On est 8 sur scène.
Waouh.
Ouais.
Et la tournée passe par où?
Moi, je choisis pas vraiment. J'ai un tourneur qui le fait pour moi en fonction des demandes. Donc, il y a des grandes salles, il y a des petites salles, il y a des grands festivals, il y a des moyens festivals, il y a des pays étrangers aussi. Ouais, je suis assez gâtée.
Ah non, mais c'est dingue. Moi, j'ai vu les chiffres. Vous avez fait 400 dates pour le précédent album. C'est énorme.
C'est énorme. J'ai fait 400 dates. On a fait, je sais pas, 25 pays, un truc comme ça.
Votre premier disque racontait en grande partie vos galères avec les mecs. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Vous avez dit, pendant longtemps, je suis tombé que sur des types trop autoritaires, un peu bad boys. Et j'ai dû un jour admettre que c'était moi qui les choisissais comme ça.
Eh ben oui.
Et est-ce que vous avez analysé la raison?
Je pense que c'était peut-être un modèle, le seul modèle que je connaissais. L'autorité, c'était mon père.
Oui.
Et alors, on a beau sortir de chez soi les cheveux en feu en disant qu'on ne veut surtout pas un gars qui ressemble à son père. Et à la fin, on fait exactement pareil.
Ça veut dire quoi, les cheveux en feu ?
Les cheveux en feu, c'est-à-dire que je suis partie en courant, quoi. J'avais hâte d'avoir ma vie à moi.
Vous avez fait cette confidence au journal Elle en août. Vous avez dit, j'ai épousé un homme il y a 3 ans. Je crois que c'est la bonne personne. Vous aurez la réponse au 3e album. Il sort quand, le 3e album ?
Bah, pas tout de suite.
Et il va raconter quoi ?
Bah, je sais pas. Pour l'instant, ça va très bien avec le mari.
Imani avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. La chanteuse Imani avec nous qui a composé son nouvel album. Et vous serez en concert dans toute la France. L'album s'appelle The Wrong Kind of War. Pardon pour l'accent.
C'est pas mal. Honnêtement, vous êtes un des meilleurs.
Il faut qu'on parle de votre histoire et de votre carrière. Vous êtes fille de militaire,
c'est
votre
ça.
Papa était pompier dans l'armée de l'air. En quoi cela vous a constitué ?
Ah bah ça, c'est une bonne question. Ça vous forge un sacré caractère.
Et vous a mis à l'école militaire dès l'âge de 10 ans ?
Oui, exactement.
C'était quelle ambiance, quel genre ? C'est quoi une école militaire ?
Une école militaire de jeunes filles. Alors ça s'appelait la Maison des Ailes, ça a fermé depuis. Mais c'était une école qui était à la base construite, je ne sais plus si c'était à la fin de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était pour les pupilles de l'air. Et donc il y a plein de choses de cette époque qui étaient restées. Donc c'était à la fois le salut du drapeau, marcher au pas, chanter la Marseillaise, mais aussi l'art de passer la serpillière, faire la tarte aux pommes, il y avait faire les lieux carrés, il fallait que les... Mais il y avait plein de choses, c'était l'armée pour les enfants, quoi.
Je ne veux pas savoir comment est votre lit, mais comment est votre tarte aux pommes ?
Elle est très bonne.
Alors, votre papa est musulman ?
Oui, tout
vous,
à fait.
Vous aussi ?
Oui.
Et alors, il vous a envoyé dans une école dans laquelle il y avait des cours de catéchisme.
Exactement.
Pourquoi cette ouverture ?
Mon père, il disait, on est dans un pays dont la base est chrétienne, si tu veux comprendre comment il fonctionne, tu vas aller au cours de catéchisme. Et donc, j'allais chanter « Jésus revient », tout ça avec les autres. Je chantais même pendant les communions et confirmations des copines. Pour lui, c'était une forme d'ouverture d'esprit et d'éducation.
Et pour vous ?
Pour moi, c'était chiant. Mais effectivement, il avait raison. Parce que pour connaître les autres, de toute façon, il faut connaître un peu d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce que ça veut dire. Il avait raison.
Il y a aussi le sport.
Ouais.
Vous avez longtemps fait de l'athlétisme. Mm-hmm. Pour le Figaro Magazine, vous faisiez du saut en longueur. Pour l'Express, c'était du saut en hauteur.
L'Express a raison. Je faisais du saut en hauteur.
Pour le JDD, vous êtes une ex-athlète de haut niveau en équipe de France de saut en hauteur.
Il y a quelques petites modifications, mais c'est pas loin.
Ouais.
Effectivement, j'ai été sauteuse en hauteur. Je me suis entraînée à l'INSEP. J'avais un petit niveau national.
Vous passiez votre taille ?
Oui, oui.
C'est combien votre taille ?
78. Et donc voilà, mais j'étais pas dans l'équipe de France. Non, non, mais je m'entraînais avec le coach de l'équipe.
Et vous regardez l'athlétisme à la télé encore ?
Quand j'ai le temps, ouais, je le fais. J'essaie de regarder au moins pendant les JO et les championnats du monde. Ouais.
Puis vous êtes devenue mannequin. Mmh. La légende raconte qu'un homme vous a repéré dans le métro pour faire des photos, c'est vrai ?
C'est une femme qui m'a repéré, mais c'est à peu près ça. Ouais.
Bon, il y a un truc dingue, c'est vous partez à New York, vous êtes mannequin,
ouais.
Mais ça se passe moins bien que prévu, car arrive, je ne savais pas du tout que ça avait une incidence, le 11 septembre.
Ouais.
En quoi ça a changé le business et la vie des mannequins et de la mode ?
Le 11 septembre, du coup, ça a été une crise financière là-bas. Et du coup, tous les clients, les potentiels clients se sont mis à faire des coupes. Donc du coup, prenez juste un certain nombre de filles, les filles très connues. Et d'un coup, on travaille plus. Et il faut quand même payer le loyer. Et moi, j'habitais à New York et j'étais partie de là. Mes parents, ils n'étaient pas hyper chauds pour que je m'en aille. Il ne s'agissait pas de revenir les poches vides, quoi.
Tout à fait autre chose. Vous êtes mobilisé avec notamment Julie Gayet contre l'endométriose. J'avoue, je ne connaissais pas du tout. Une maladie gynécologique. Qu'est-ce que c'est ?
C'est une maladie qui, en gros, va vous donner des règles douloureuses. Tellement douloureuses que vous ne pouvez pas sortir du lit. Il y a des femmes qui s'évanouissent, il y a des femmes qui vomissent. C'est la première cause d'infertilité en France. C'est des douleurs pendant les rapports sexuels. Enfin, tout.
Vous dites que vous avez une amie qui s'est retrouvée en chaise roulante ?
Elle est tellement atteinte à ce que j'ai oublié d'expliquer dans la maladie, c'est que vous avez les cellules du mur utérin qui se retrouvent ailleurs que dans l'utérus. Sauf qu'elles réagissent de la même manière. Ça veut dire que pendant les règles, elles gonflent, elles se détériorent et elles saignent. Vous saignez donc des poumons, de la vessie, de l'œil à chaque fois que vous avez vos règles. C'est abominable.
J'ai découvert également que ça s'opérait et que vous-même avez été opéré.
Oui, alors en fait, on peut soigner les symptômes et pas la maladie. Et à l'opération, qu'est-ce qu'on fait ? Au laser, on vous enlève tout. Toutes les cellules endométriotiques qui ne sont pas censées être là. Mais le problème, c'est que ça peut revenir.
Vous pensiez que vous ne pourriez jamais avoir d'enfant et bim !
J'ai eu un petit garçon. C'est une touche d'espoir et à la fois, je ne tiens pas à être cet espoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à peu près entre 60 et 70% des femmes qui ont une endométriose qui n'auront jamais d'enfants. C'est une statistique. Donc moi, c'est une touche d'espoir, mais je ne veux pas être donner des faux espoirs. Il faut, pour moi, essayer de trouver, se construire et accepter la situation telle que la vie vous l'apporte.
Imani, avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Imani, avec nous, je vais citer La Croix, chanteuse française d'origine comorienne qui chante en anglais, enregistre entre Paris et Dakar et qui a demandé à deux DJ russes de remixer une chanson de 2014 qui va devenir le tube de l'été 2016. La Croix a écrit ceci, mais c'est faux, c'est pas vous qui avez demandé le remix.
C'est faux, c'est que j'allais le faire.
Imani, c'est un pseudonyme ?
Absolument.
Est-il vrai que vous l'avez choisi en hommage, je vous cite, à une jolie princesse soumise dans un film ?
Exactement, un prince à New York.
Mais alors, j'ai aussi lu que vous l'aviez choisi parce qu'en Swahili, ça veut dire espoir.
Ah non, je l'ai su après. J'ai su après que ça voulait dire foi, la foi, pas l'espoir. Ça veut dire la foi, mais moi, je l'ai vraiment choisi parce que c'était le nom de la princesse soumise et stupide d'un prince à New York.
Alors, vous avez fait plein de petits boulots à New York après votre période mannequin. Vous avez été serveuse, normale. Est-il vrai que vous avez distribué des tracts dans la rue à New York déguisés en perroquet ?
C'est vrai.
Il était comment le déguisement ?
Horrible, horrible. Il était trop petit, il était lourd. Et il faisait moins 30 à Times Square. Je me faisais insulter par les New Yorkais. C'était une expérience que j'ai fait une fois. Le lendemain, je suis parvenu.
Est-il vrai que vous avez été RP, Public Relation, d'une boîte de striptease?
J'étais assistante, oui. Assistante RP d'une boîte de striptease, absolument.
Ouais. Alors ça se passait comment? Vous faisiez quoi? Vous venez voir mes filles toutes nues?
En fait, ce qu'il fallait faire, c'était essayer, parce que c'était une boîte de striptease classe quand même. Ils faisaient venir des filles d'Europe, c'était à New York, et le steak était à 200 balles. Pas le Lido quand même, mais c'était un truc censé être classe. Et donc moi, mon boulot avec la RP, c'était d'aller démarcher les boîtes et leur dire, bah, ce serait bien que vous invitiez vos clients à signer les contrats dans notre boîte. En fait, en gros, c'est ça, entre deux paires de fesses. C'était ça, mais moi j'étais nulle et je suis partie de là-bas et ma boss était très contente.
Est-il vrai que vous avez fait du relooking pour Quadra déprimé?
Quadra déprimé, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est vrai, j'ai fait du relooking. Ça, c'est une histoire géniale que je ne raconte pas souvent. Mais à l'époque, à New York, pareil, j'essaie de me débrouiller, vivoter. Et je vis avec une avocate brillante, qui s'habille comme un sac. Et un jour, elle me dit, j'en ai marre, je ne trouve pas l'amour, personne ne me regarde. Et je dis, bah, si tu veux, on va faire les courses ensemble, je vais t'aider. Et en un week-end, c'était devenu une autre personne. Elle retourne au travail, et américaine qu'elle était, elle revient et elle avait une idée de business pour moi. Elle revient et elle a dit à toutes ses copines qui n'en croyaient pas leurs yeux au boulot, ah ben non, mais j'ai une relookeuse. Donc elle m'avait déjà trouvé le titre, etc. Et en fait, en une semaine, on a monté le truc. Je monte un truc super bien chiadé, avec la consultation, du placard. Je regardais ce qui allait pas, on jetait tout. Ensuite, on allait faire les boutiques en fonction de votre corps, de ce que vous voulez. Et en fait, j'étais vue perçue comme une Française là-bas, je pouvais me permettre d'être sèche, cash. Elles acceptaient tout. Et vraiment, j'ai fait, voilà.
Et pourquoi vous avez arrêté? À cause de la musique?
En fait, je le faisais pour payer mes maquettes. Je me suis fait pas mal d'argent, en fait, assez vite. Et quand j'ai eu suffisamment en enveloppe pour aller payer mes maquettes, j'ai arrêté parce que je faisais que ça pour ça.
Est-il vrai qu'un livre a changé votre vie quand vous aviez 15 ans?
Oui, il y a un livre qui a changé ma vie. C'est « Mémoire d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir.
En quoi ça a changé votre vie?
En fait, à l'époque, je lisais beaucoup de ces auteurs-là, les existentialistes. Le premier bouquin en vrai qui a changé ma vie, c'est L'étranger de Camus. Et en fait, j'arrive à force à Simone de Beauvoir. Parce que d'un coup, c'est la seule qui me parle et qui m'explique que on ne naît pas femme, on le devient. Et que surtout, ce qui m'a vraiment saisi, c'est la notion de prendre son destin en main. D'un coup, je me dis, ah tiens, je peux devenir ce que j'ai envie de devenir.
Et alors, vous avez dit, cela a été si radical que je me suis rasé la tête.
Ah ça, ça a été un raccourci de beaucoup de gens, mais c'est vrai que pas longtemps après...
C'est vous qui l'avez dit.
Non, pas exactement. En le sens que, en effet, j'avais des cheveux très longs, très beaux, mais il fallait que je m'assoie par terre tous les week-ends pour les faire tresser. Et moi, j'en avais marre et je me suis dit... Et ma mère me disait, mais être une fille, c'est ça. Je me suis dit, bon, bah, si c'est ça, être une fille, j'ai qu'à couper les cheveux et puis comme ça, j'aurai la paix, en fait. Donc voilà.
Est-il vrai qu'à cause de votre voix grave, vous êtes parfois obligé de décliner votre identité quand vous appelez la banque?
Quand j'appelle tout le monde, la banque, EDF, tout le monde, c'est toujours monsieur qu'on m'appelle. Et en fait, il est arrivé une fois, l'histoire, c'est j'ai appelé UGC une fois pour régler une facture et ils n'ont pas cru que c'était moi. J'ai tout décliné, tout, ils n'ont pas cru. Et carrément, il y avait une note, je pense, dans leur dossier qui disait « Attention, un homme se fait passer pour la cliente ». Et à chaque fois que je les appelais, eh ben, ils disaient « C'est pas vous ».
Et pourtant, c'était bien vous. Merci beaucoup, Imani, d'être venue ici avec votre vraie voix.
Eh ben, je vous en prie.